Délivrez-vous. Une émission littéraire présentée par Claudine Buga pour ceux qui aiment lire et ceux qui n'ont pas le temps.
C'est de zèle.
Bonjour à toutes et tous. Pour moi, c'est une émission un peu exceptionnelle, pour la radio aussi sans doute, parce que, voyez-vous, en ce matin de jeudi 11 mars, je vous dis tout, l'émission est enregistrée, sera diffusée un peu plus tard, et bien pour nous il est 9h, et là où j'appelle, l'autre bout de la Terre, de l'autre côté du monde dirais-je, il est 21h puisque nous appelons en Nouvelle-Zélande. Mon invité d'aujourd'hui, comment vous le dire, c'est un parasitologue. Alors déjà, je vous entends dans vos chaumières, oh là là, qu'est-ce qu'elle nous propose aujourd'hui. C'est vrai que c'est un livre très particulier sur un sujet aussi bien précis, pointu. Je me suis lancée dans cette aventure parce que justement, c'était une aventure. Une aventure, on va parler de parasites, de zombies. On va s'apercevoir que finalement, toutes ces petites choses ont une influence sur nos comportements dans la nature depuis toujours et que, on vit avec au quotidien et que, tout simplement, elles sont indispensables, dirais-je, au bruit de l'humanité. Pour nous parler de ça, c'est un spécialiste, donc il vit en Nouvelle-Zélande, c'est Clément Lagrue. Il va parler de lui, il est parasitologue, il est spécialisé en la matière et puis il est conseiller au niveau du développement de l'environnement pour la Nouvelle-Zélande. Bonjour Clément Lagrue.
Bonjour, comment allons-nous?
Nous allons bien. Merci d'avoir accepté notre invitation pour délivrez-vous pour ces deux ailes pour votre livre « Les parasites manipulateurs » aux éditions Passé Composé. Je disais, vous vivez en Nouvelle-Zélande. Eh ben, on va parler un petit peu de vous. Qui est Clément Lagrue?
Oula, j'espère que vous avez le temps.
On a 25 minutes.
Déjà, comme vous l'avez gentiment dit, je suis un parasitologue, ce qui peut surprendre pas mal de gens. Alors,
ouais.
Déjà, on ne se décide pas parasitologue. J'ai pas un seul collègue qui avait décidé quand il était petit qu'il serait parasitologue. C'est souvent qu'on le devient au fur et à mesure des études, et c'est un peu ce qui m'est arrivé, parce que
ouais. Quand
on fait la biologie et qu'on étudie la vie, et ben, si un jour on rencontre un parasite, on s'aperçoit qu'ils sont très très importants et que si on passe le premier un peu rebut et dégoût, c'est des organismes qui sont vraiment fascinants et qui ont été assez peu étudiés. Donc c'est assez facile de se passionner pour ces organismes-là.
Alors, j'ai lu au début du livre, quand vous parlez de ces choses-là, des parasites, des zombies, les gens vous posent la question en vous disant « Mais en fait, c'est quoi votre travail ?» Alors, en fait, on ne s'improvise pas, on le devient, vous le dites au fur et à mesure des études et des recherches, mais quel est l'intérêt fondamental? Parce que bon, on va développer ça tout au long du livre, on ne pourra pas tout raconter parce que là, il faudrait la journée voire plus, donc on va approcher la chose au plus près, mais quel est l'intérêt, quel est l'objectif de chercher ces parasites?
Alors, c'est assez amusant de cette question parce que c'est une question que la science et la biologie a posée elle-même pendant très très longtemps et
ouais. Elle
était convaincue qu'il n'y avait aucun intérêt à étudier les parasites.
Mm-hmm.
Mais si on regarde les chiffres, on s'aperçoit que la moitié de la biodiversité sur Terre est composée de parasites. Chez les plantes, chez les champignons, chez les animaux,
mm-hmm. La
moitié des organismes, la moitié des espèces sont des parasites et ces parasites, par définition, interagissent avec d'autres organismes puisqu'ils ont besoin de ces organismes. Donc, cette interaction est vitale à l'évolution de la vie sur Terre, à la biodiversité qu'on observe aujourd'hui.
Mm-hmm.
Donc, pourquoi étudier les parasites? Parce qu'ils sont omniprésents et qu'ils ont influencé l'intégralité de la vie telle qu'on la connaît.
Mm-hmm. Donc, de la vie sur Terre, de son origine, dès l'origine, en fait.
C'est difficile de savoir parce que par exemple les dinosaures, on peut trouver plein de fossiles, mais des fossiles de parasites, il y en a très très peu parce que souvent les parasites sont petits et sont des organismes à corps mou, donc il fossilise très peu. Mais on a quelques exemples de parasites dans des fossiles, mais on peut imaginer que dès l'évolution de la vie, à partir du moment où il y avait une ressource chez donc un hôte, les parasites se sont développés en parallèle des organismes libres, donc les dinosaures étaient probablement couverts de parasites et contenaient probablement une grande diversité de parasites internes aussi.
Mm-hmm.
C'est juste qu'on n'a pas on n'a pas cette documentation dans le fossile.
Mm-hmm. Alors, au travers de votre livre, il y a plusieurs sujets à aborder. Et alors, Il y a les sujets sur les animaux. Alors moi, j'ai été très intriguée par le chapitre les hérons, la grenouille. Alors on s'aperçoit qu'il y a une forme d'interaction. Il y a l'histoire aussi des parasites et du zombie. Expliquez-nous un petit peu tout ça.
Alors moi, ma spécialité quand j'étudie les parasites manipulateurs, ces parasites, beaucoup de ces parasites manipulateurs ont ce qu'on appelle un cycle complexe, c'est-à-dire qu'ils n'utilisent pas seulement une espèce d'hôte pour se développer. Par exemple, l'exemple du héron, de la grenouille et de l'escargot.
Oui.
Le même parasite utilise un escargot, une grenouille et un héron pour chaque génération. Donc en fait, ça commence chez l'escargot, qui est infecté quand il mange un œuf du parasite, et après, dans l'escargot, va se développer une phase larvaire du parasite qui va produire plein de petites larves qui vont sortir l'escargot, qui vont devoir infecter un têtard. Et une fois dans le têtard, pour finir son cycle de vie et pouvoir se reproduire, le parasite a besoin que le têtard ou la grenouille se fasse manger par un oiseau. Et c'est là que ça devient un peu compliqué pour lui, parce qu'évidemment, la grenouille et le têtard, ils n'ont aucun intérêt à se faire manger par un oiseau. Donc ils ont développé des millions d'années d'évolution pour essayer d'éviter de se faire manger, alors que le parasite veut que la grenouille se fasse manger. Donc une des solutions, c'était de transformer la grenouille en zombie ou lui faire pousser d'autres pattes. Ou... Mm-hmm. C'est pour ça que c'est un exemple qui choque un peu les gens, mais c'est un exemple qui est assez classique chez les parasites.
Alors, vous dites aussi le paragraphe sur les guêpes émeraudes. Alors, le parasite, il a intérêt à ce que l'hôte vive le plus longtemps possible et soit résistant finalement.
Alors, chez la guêpe émeraude, c'est un peu un exemple particulier parce que les guêpes sont des parasitoïdes, c'est-à-dire que la guêpe en elle-même est un organisme libre, prédateur, qui va manger tout ça, mais la larve de la guêpe est un parasite. Et en fait, la guêpe émeraude, c'est quelque chose qui terrifie souvent les gens parce que c'est la définition un peu de la manipulation externe. C'est-à-dire que la guêpe va devoir trouver une nurserie pour chacun de ses œufs.
Oui.
Et ces nurseries sont des cafards. Donc la guêpe va trouver un cafard, pondre un œuf dessus, mais elle a besoin que ce cafard ne résiste pas à l'infection et reste en vie le plus longtemps possible. Donc en fait, elle fait de la microchirurgie, neurochirurgie sur la blatte, pour que le cafard ou la blatte ne résiste pas à la larve qui va la dévorer de l'intérieur. Donc c'est vraiment quelque chose qui parle à l'inconscient humain et qui est assez terrifiant. Parce que la blatte reste consciente tout en ne résistant plus au fait qu'elle soit mangée de l'intérieur.
D'accord. Alors, quand on parle des parasites manipulateurs, c'est-à-dire que, en fait, c'est eux, quelque part, qui imposent... Alors, on le verra plus tard pour le meilleur et pour le pire aussi pour l'homme, mais ils imposent en fait leur façon d'être, de se propager et de décider que leur hôte peut acter de leur vie. C'est-à-dire que c'est eux qui décident. L'hôte n'est pas tellement détenteur de ses propres actions.
C'est un bon résumé. Alors, il faut se rendre compte que les hôtes n'ont aucun intérêt de parasiter.
Oui.
Et le parasite, en général, a des intérêts différents de celui de son hôte. Donc, il a besoin de le maintenir en vie pour les ressources et pour un certain temps. Mais vraiment, s'il y a un conflit d'intérêts entre l'hôte et le parasite, l'hôte, par définition, un hôte ou un organisme libre pour décider de faire ce qu'il veut de sa vie. Et le parasite à l'intérieur n'a que très peu de pouvoir lui-même, c'est-à-dire qu'il ne peut pas sortir de l'hôte et aller où il veut. Donc la seule solution, c'est de prendre le contrôle de l'hôte et lui faire faire ce dont le parasite a besoin. Mm-hmm. Alors pourquoi est-ce que l'hôte se laisse faire? Il faut se rendre compte que l'hôte n'est pas toujours parasité. Donc nous, en tant qu'humains, on n'a pas toujours des parasites, donc on a d'autres priorités dans la vie. Alors que le parasite, une fois qu'il est dans un hôte, il n'a qu'une priorité, c'est survivre et guider son hôte. Donc il y a un peu un déséquilibre entre l'hôte et le parasite, ce qui fait que c'est pour ça que les parasites sont devenus aussi impressionnants dans leur capacité de manipulation.
Alors, il y a un chapitre aussi très intéressant, c'était l'histoire de l'homme avec le parasite. Vous dites pour le meilleur et pour le pire. Dans quel cas c'est le meilleur pour l'homme? En quoi? Alors, on lit aussi que ça a une influence sur notre comportement, c'est-à-dire qu'il y a toute une étude comportementale liée au parasite par rapport à l'homme. Comment ça se passe?
Il y a plusieurs choses. Déjà, dans notre histoire évolutive, si on est tous d'accord qu'on descend de quelque chose qui ressemblait à un singe, et tous nos liens sociaux et notre structure sociale a quelque part été guidée par les parasites. On le voit encore chez les grands singes aujourd'hui qui se toilettent, mais qui ont aussi une cohésion sociale assez forte et une peur de tout ce qui est extérieur au groupe. C'est une façon de se protéger des parasites. Et même à l'heure actuelle, il est facile de voir comment les parasites influencent directement ou indirectement notre comportement. Moi, j'ai un jeune fils qui va à l'école et il y a eu quelques cas de poux à l'école et tout le monde là, tout le monde commence à paniquer parce qu'il y a quelques poux et c'est vraiment quelque chose qui parle à l'inconscient collectif et ça vient de notre évolution parce que les parasites, maintenant dans les sociétés riches, on est quand même relativement protégé de ces choses-là, mais fut un temps où les parasités pouvaient être un vrai problème. Donc la première défense, c'est le comportement, avoir un comportement qui permet d'éviter l'infection.
Un comportement préventif, donc.
Oui, tout à fait, c'est exactement ça. Notre comportement actuel s'est développé au cours de l'évolution pour prévenir l'infection principalement. Après, une fois infecté, la manipulation comportementale se fait à l'insu de nous-mêmes. Donc, c'est deux choses complètement différentes. Notre comportement est calqué a évolué pour essayer d'éviter l'infection. Une fois qu'on est infecté, ça, c'est autre chose. C'est une interaction entre nous et le parasite.
D'accord. Alors, également pour le pire, effectivement, le pire, on devine que si on ne peut pas lutter contre les parasites, est-ce qu'on peut associer malgré tout les parasites à un virus, c'est-à-dire à une échelle plus ou moins grande?
Les virus sont des parasites. Après, ça dépend de la définition qu'on fait du parasite, mais tout ce qui vit au dépens d'un autre organisme et par définition un parasite. Donc les virus ne sont que des parasites, n'ont pas d'existence propre. Donc les virus font partie des parasites. Donc Covid, c'est un parasite. Et d'ailleurs, c'est un parasite très très efficace puisque il s'est répandu à l'échelle mondiale malgré tous les moyens qu'on déploie contre lui. Donc c'est effectivement un parasite qui est extrêmement efficace.
Et en fait, on peut considérer que le Covid, c'est un parasite totalement manipulateur.
Oui, il a des échelles sans précédent, puisqu'on voit tout ce qui est confinement et tout ça, c'est une espèce de manipulation comportementale collective contre le parasite, et malgré tout, il se débrouille très bien. Donc,
il circule.
Il circule très bien, donc ça a des effets comportementaux qui n'ont aucun intérêt ni pour l'autre ni pour le parasite, et pourtant ça a affecté énormément de nos comportements, indirectement.
Alors, au travers du temps, des siècles, bien évidemment, l'étude est devenue plus pointue. Et au bout du compte, finalement, on s'est rendu compte qu'il était utile d'étudier ce genre de choses parce que ça permettait également de prévenir certaines maladies et d'étudier aussi ou d'expliquer certains comportements, notamment humains ou animaux.
Oui, tout à fait. Les parasites ont une telle influence sur le monde vivant qu'on peut pas le comprendre sans intégrer à l'équation les parasites, puisqu'ils ont une influence sur tous les organismes, sur les comportements, sur la physiologie. Notre système immunitaire a évolué comme une machine de guerre pour se défendre contre tous ces parasites. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus d'études qui montrent que les taux d'allergie qu'on trouve dans les sociétés riches, où on est tellement propre et tout est axé sur nettoyer toutes les surfaces, se débarrasser des bactéries, notre système immunitaire a besoin de se défendre contre quelque chose. Donc, il y a de plus en plus d'études qui montrent que quand notre environnement est trop propre, notre système immunitaire se dérègle, ce qui provoque des allergies parce qu'il a plus rien à combattre.
Alors, il y a aussi un chapitre. Alors, les mots, je vais probablement les déformer. Communément, on appelle ça vert. Alors, il y a des mématomorphes. Non, c'est pas ça. Et des mé. Je savais que ce serait compliqué.
C'est ça.
Et le second, ça ressemble un peu à amide. Je me souviens pas du second mot. Et alors, on appelle ça communément des vers. Mais alors, quel est le rapport? C'est aussi un parasite, mais quelle est son action? Parce que j'ai l'impression que c'était quelque chose d'un peu particulier.
Alors, oui, les nématomorphes et les nématelmintes sont communément groupés dans ce qui s'appelle les vers gordiens. Alors ça, c'est parce qu'ils sont très très longs et très très fins.
Oui.
Et on a l'impression qu'ils forment des nœuds gordiens, qui est une légende, ou qui était un nœud qui n'avait aucune fin, donc on pouvait pas dénouer d'où vient leur nom. Mais ceux-là sont très très connus et très très célèbres parce que ce sont ces vers qui font sauter les insectes dans l'eau.
Ah oui?
Donc ça a été un exemple assez populaire où, en fait, c'est encore une fois un exemple de parasitoïde. Donc le ver adulte vit dans l'eau librement. Et les œufs sont libérés dans l'eau, se déposent sur la végétation et sont mangés par des insectes. Et la larve se développe dans l'insecte, sauf que la larve, une fois qu'elle est prête à retourner dans l'eau, doit trouver l'eau. Il ne peut pas sortir de l'insecte et ramper jusqu'à l'eau. Donc il a besoin que l'insecte se jette dans l'eau de lui-même. Sauf que la plupart des insectes, les sauterelles, grillons, cafards et compagnie, n'ont pas vraiment intérêt à se jeter dans l'eau. Et en général, la plupart d'entre eux en ont très peur. Donc le ver modifie le comportement des insectes pour qu'ils se jettent dans l'eau comme s'ils allaient se suicider.
D'accord. Ah oui, c'est particulier, effectivement. Oui. Alors, dans notre comportement, il y a le comportement humain conscient sur lequel les parasites ou les virus peuvent agir, mais également le comportement abstrait, c'est-à-dire qu'on n'a pas conscience que l'on est manipulé. Comment ça se passe au niveau de notre cerveau, au niveau de notre fonction propre?
Alors, il faut savoir que l'homme aime bien se placer un peu au-dessus du reste du monde, c'est un peu moins maintenant, mais la science a très très longtemps placé l'homme sur un pédestal comme étant au-dessus de l'animal, mais il faut se souvenir que notre cerveau et notre système nerveux fonctionnent de la même manière que tous les organismes, tous les vertébrés, les neurotransmetteurs sont les mêmes, donc les parasites ont eu des millions d'années d'évolution pour apprendre à manipuler ces neurotransmetteurs, et pas forcément de façon dont on en est conscient. Donc effectivement, les exemples comme la toxoplasmose, qui est très commune en France, certaines études indirectes, parce qu'évidemment, on ne peut pas prendre des bébés ou des gens à la naissance et les infecter avec la toxoplasmose pour voir ce qui va se passer après. Mais de plus en plus d'études un peu anecdotiques montrent que à l'insu de notre plein gré, la toxoplasmose manipule notre personnalité, souvent en augmentant les prises de risque et ce genre de choses, parce que ça peut paraître un peu absurde, mais dans l'intérêt du parasite, évolutivement, la toxoplasmose se transmet au félin. Donc, j'ai grandi en France avec des chats, il est fort probable que
j'ai la toxoplasmose.
Donc, mais nos ancêtres étaient sûrement mangés de temps en temps par des tigres à dents de sabre, ce genre de choses. Donc, le parasite avait tout intérêt à nous faire augmenter nos prises de risque, à nous rendre moins prudents pour augmenter notre chance de se faire manger par un félin. Et c'est ce qu'on observe chez les rats, chez les souris, c'est les principaux vecteurs de la toxoplasmose. On observe des rats qui perdent complètement leur peur des chats et qui se jettent dans la gueule du chat. Et ça, c'est tout à l'intérieur du parasite.
D'accord. Est-ce que d'un continent à un autre, d'un pays à un autre, l'étude, le regard sur les parasites est différente? C'est-à-dire, est-ce que en fonction des peuples, des peuplades, de leur histoire, de leur origine, est-ce que les comportements peuvent être différents?
Ah ben, oui, sûrement. Après, ça dépend aussi des parasites auxquels on est exposé. Les pays tropicaux ont beaucoup plus de parasites qui sont beaucoup plus dangereux, comme la malaria ou ce genre de problèmes que nous, on n'a pas dans les pays un peu plus développés. Donc évidemment, l'attitude humaine vis-à-vis des parasites peut dépendre beaucoup du risque encouru. Il y a certains endroits en Afrique où une proportion assez large des adultes ont ce qu'on appelle river blindness en anglais, qui est un parasite qui rend les gens aveugles. Donc évidemment, dépendant de l'endroit où on vit et de notre accès aux soins, on a des attitudes vis-à-vis des parasites qui sont un peu différentes. Dans les sociétés riches, les poux, tout le monde panique dès qu'un enfant a des poux, alors que c'est un parasite qui est vraiment bénin. Je pense que certains peuples dans les milieux tropicaux qui sont exposés à des taux de malaria très élevés, les poux, c'est le cadet de leurs soucis. C'est vraiment, ça dépend du risque encouru.
Est-ce que malgré tout, il y a, on peut dire ça comme ça, est-ce qu'il y a des parasites utiles? Oui, certainement.
Oui, utile, ça dépend. Utile pour l'humain, quelques-uns utiles pour la vie. Oui, les parasites sont vitaux à la vie telle qu'on la connaît, à la biodiversité. Il faut savoir que dans beaucoup de cas, les écosystèmes sont tenus par les parasites. La diversité est tenue par les parasites parce que ça peut changer les relations de compétition entre certaines espèces. Donc oui, les parasites sont utiles. Ça, c'est pas un point à discuter. Est-ce qu'ils sont utiles à l'humain? Dans notre histoire évolutive, oui, par exemple, nos cellules marchent avec l'énergie à nos cellules est produite par des mitochondries qui sont un organelle dans les cellules. Et ça, historiquement, c'est un parasite. Donc maintenant, toutes nos cellules ont des mitochondries, mais l'histoire évolutive, tout ce qu'on a pu regarder sur l'ADN de ces choses-là, montre qu'à l'origine, c'était probablement des bactéries qui ont infecté les cellules à l'origine. Donc, sans parasites, on serait juste tout simplement pas ici. Et pareil pour les plantes, les chloroplastes qui permettent la photosynthèse chez les plantes étaient probablement à l'origine des parasites.
Donc en fait,
après, il y a d'autres endroits où les parasites peuvent être utiles. Et j'en parle dans mon livre, par exemple, les gens qui ont certains problèmes auto-immuns ou d'allergie, les parasites peuvent vraiment aider avec les symptômes parce qu'ils permettent de retourner notre système immunitaire contre une cible normale au lieu de se retourner contre nous-mêmes.
Et donc en fait, les parasites font partie de l'évolution normale de l'humanité, que ce soit humain, animal ou végétal.
Ah oui, bien sûr. On ne serait pas où on en est sans notre association très serrée avec les parasites. Et la médecine a été développée autour de la lutte contre les parasites. Le vaccin de Pasteur, c'était pour lutter contre la rage, qui est un grand manipulateur de la rage. Le virus de la rage est un des manipulateurs les plus impressionnants et qui parle le plus à l'inconscient collectif. Beaucoup de films de science-fiction et d'horreur sont basés sur les symptômes de la rage. Donc, oui, la médecine telle qu'on la connaît, à l'origine, était quasiment entièrement dévouée à la lutte contre les parasites.
Depuis combien de temps, Clément Lagrue, vous étudiez les parasites? Depuis combien de temps vous travaillez là-dessus?
Depuis combien de temps? Ça doit remonter à mon master en 2002-2003. Ouais, c'est là que je suis passé.
C'était hier.
J'étais passionné par le... Hier, j'étais passionné par l'écologie aquatique et c'est là que j'ai un peu découvert les parasites chez les gamards. Donc je parle dans mon livre, donc j'ai beaucoup d'affection pour ces petites crevettes qui elles sont fortement influencées par les parasites et aussi leur comportement. Et c'est comme ça que ça a commencé. C'est vraiment une rencontre humaine et une rencontre biologique. Je rencontrais la bonne personne et le bon modèle
et le bon modèle au bon moment.
Comme ça,
donc
C'est le cas pour tous les collègues, tous les plus grands parasitologues que je connais. C'est comme ça que ça a commencé en général.
Et on s'aperçoit tout au long de vos livres, tout au long du livre et des chapitres, que il y a de votre côté parfois des surprises, une évolution dans la découverte. Finalement, cette étude, elle est infinie.
Oui, c'est ça qui est passionnant, c'est ça qui est un peu frustrant des fois, parce que le plus on découvre, le plus on pose de questions, c'est un peu la base de la science fondamentale, mais effectivement, plus on cherche, plus on trouve, et dans la parasitologie encore plus, puisqu'on l'a ignoré pendant si longtemps. Ce qui est un peu frustrant à l'heure actuelle, c'est qu'on a énormément d'exemples de parasites manipulateurs, mais on comprend encore très très mal les mécanismes derrière, ce qui est assez rigolo, parce qu'on a considérer les parasites comme une régression de la vie, une espèce de dégénérescence de la vie libre, et maintenant on est devant une boîte noire qu'on est incapable d'ouvrir et de décoder, alors qu'on a considéré ces organismes comme simplistes et dégénérés, et maintenant on comprend pas comment ils arrivent à manipuler leurs hôtes, donc c'est assez paradoxal.
Est-ce que la Nouvelle-Zélande est un beau terrain d'étude avec toute sa biodiversité, ses volcans, ses lacs, ses plages, ses forêts et Dieu sait quoi, j'ai regardé tout ça. Est-ce que c'est un bon lieu de culture et d'observation?
Alors oui et non, c'était une biodiversité vraiment très particulière, endémique. La Nouvelle-Zélande est dérivée de tout autre continent pendant très longtemps. Malheureusement, elle était très fortement impactée par l'activité humaine et toutes les espèces qu'on a introduites. Mais au niveau de la parasitologie, un des plus grands noms de parasitologie mondiale se trouve ici en Nouvelle-Zélande, Robert Poulin, qui est canadien québécois d'origine et un des plus grands noms de la parasitologie mondiale. Donc c'est un peu pour ça que j'ai découvert la Nouvelle-Zélande. J'étais venu faire ma thèse ici. Et ce qui est assez drôle, c'est qu'il y a peu de parasitologues en Nouvelle-Zélande. Donc à chaque fois qu'on regarde un peu, on trouve de nouvelles espèces ou de nouveaux parasites qui sont assez passionnants. Donc oui, au niveau de la parasitologie, c'est un endroit qui est particulier parce qu'il a été isolé pendant si longtemps.
Et oui.
Mais au niveau de la biodiversité elle-même, malheureusement, on lui a fait beaucoup de mal.
C'est vrai qu'avec l'arrivée des colons et ils ont amené toutes sortes d'animaux et autres, c'est sûr que ça a dû un petit peu perturber la biodiversité existante à l'origine, c'est certain.
Un petit peu, oui, c'est un petit peu beaucoup. Oui. Malheureusement, des chiffres tout simples, il doit rester à peu près 10% de la forêt originale de Nouvelle-Zélande. Il faut savoir que le climat néo-zélandais fait que quasiment tout le pays était couvert de forêts. Oui. Il reste moins de 10% de cette forêt à l'heure actuelle. Donc toutes les espèces qui étaient dans ces forêts ont un peu disparu. C'est... Oui, c'est un pays qui est paradoxal parce qu'on fait beaucoup pour la conservation, mais malheureusement, il y a beaucoup plus à faire.
Vous savez, c'est un petit peu partout pareil aussi, hein, très certainement aussi. Vous prenez le Costa Rica, qui est l'un des pays où je suis allée il y a un an. C'est vrai que d'un côté, ils font énormément pour la biodiversité, pour l'environnement, pour leurs forêts tropicales. Et puis d'un autre côté, vous avez des routes, vous avez des camions qui n'ont pas de pot d'échappement et ça pollue l'air ambiant. Donc voilà, c'est...
c'est un voilà. peu partout pareil, mais la Nouvelle-Zélande est un peu paradoxale, sachant qu'on vend l'image, c'est un peu clean and green, donc propre et vert.
Propre
mais
et vert. Pas,
si on cherche un peu, si on peut regarder un peu derrière, c'est pas aussi simple que ça.
C'est pas aussi simple que ça. Mais néanmoins, c'est l'autre bout de la terre, et sans doute ça va être très intéressant aussi d'étudier les choses sur cette île. Voilà. Lointaine. Est-ce que vous allez continuer, alors bien sûr, étudier sur les parasites, est-ce que vous allez faire d'autres livres pour, parce que c'est une science infinie, donc il y a encore plein de choses à dire, je suppose.
Oui, il y a encore plein de choses à dire. Alors, il faut savoir que j'ai un peu changé de carrière, donc je ne suis plus dans l'académie maintenant, je fais plutôt de recherche. Maintenant, j'ai passé 18 mois au Canada avant de revenir en Nouvelle-Zélande et j'ai vécu en Alberta où la province vit sur le gaz de schiste, les sables bitumineux, le pétrole et donc je me suis dit que c'était peut-être pas ce que je voulais faire de récupérer les financements de ces industries pour faire de la recherche fondamentale à l'université. Donc je l'ai dit avec la famille, on a décidé de revenir en Nouvelle-Zélande et j'ai changé de carrière. Donc maintenant je travaille pour le ministère de la Conservation de Nouvelle-Zélande et j'essaie de prendre ma petite part dans essayer de faire un peu mieux que ce qu'on a fait jusqu'à maintenant. Donc j'ai quand même réussi à intégrer des parasites dedans, donc j'ai réussi à convaincre certaines personnes que les parasites étaient aussi importants que les espèces protégées qu'elles parasitaient, donc j'ai réussi à avoir quelques programmes pour regarder les parasites d'espèces un peu plus rares et plus protégées pour voir si on peut les intégrer en même temps dans les programmes de conservation.
D'accord.
Je fais plus trop de recherches fondamentales sur le comportement ou ce genre de choses, qui est un peu dommage, mais c'est un peu un choix de, comme on dit, la crise de la quarantaine, je suppose,
peut-être.
Chose d'un peu différent.
Oui. Bon, en tout cas, c'était un vrai plaisir de vous recevoir pour ces parasites manipulateurs. On a appris plein de choses, mais nul doute que j'enjoins les auditrices, auditeurs à acheter le livre et à le lire parce que finalement, on s'aperçoit que c'est notre quotidien et que c'est l'histoire de notre humanité. Donc, les parasites manipulateurs aux éditions Passé Composé. Merci Clément Lagrue, c'était un vrai plaisir de vous entendre, de vous parler. Merci d'avoir accepté mon invitation parce que je le rappelle pour vous, il est un petit peu avancé dans la soirée, mais merci d'avoir été disponible en tout cas.
Non, c'est moi, merci beaucoup. Et puis ça me fait plaisir parce que le livre a été un peu écrit comme une page qui se tourne dans ma carrière, comme je l'ai expliqué.
Oui.
Et puis, c'était un peu aussi pour essayer de démystifier les parasites et que les gens se rendent compte qu'il ne fallait pas en avoir peur, qu'ils étaient là, qu'ils faisaient partie de nous et de notre histoire. Donc il n'y avait rien de sale ou il fallait juste l'accepter comme tel.
Oui, c'était aussi un peu le but de l'émission, voilà, un petit peu dégrossir la chose et puis surtout la rendre tout à fait normale et de vivre avec. Merci Clément Lagrue et puis je vous souhaite une bonne soirée parce que pour nous la journée commence,
donc
bonne soirée. Merci,
au revoir.
Au revoir.